Merci d'écouter RFI, il est 1h à Paris, 23h en temps universel. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Mathis Limano. Bonsoir Mathis.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Un énième rebondissement dans le chapitre de la guerre commerciale de Donald Trump. Une cour d'appel vient de rétablir les droits de douane à peine 24 heures après leur blocage décidé en première instance. Le flou toujours autour de la résolution de la guerre en Ukraine. Kiev se dit prêt à discuter avec la Russie. Rendez-vous est donné lundi à Istanbul, mais exige auparavant de connaître les conditions du Kremlin et demande une discussion constructive. Le Canada et les feux de forêt dévastateurs également à la une. 17 000 personnes en cours d'évacuation. Et puis reportage à Mayotte, désert médical auprès de médecins qui tentent avec leurs moyens de garantir un accès aux soins aux habitants.
RFI.
Les droits de douane de Donald Trump maintenus temporairement par la justice américaine. Moins de 24 heures après avoir été bloqués en première instance, les surtaxes du président américain sont donc maintenues par une cour d'appel. Le temps, disent les juges, de se prononcer sur le fond du dossier. On assiste là à un énième rebondissement dans le feuilleton théoconscience de la guerre commerciale lancée par Donald Trump.
Quand ce n'est pas le président américain lui-même qui fait volte-face, c'est la justice. Hier, l'ITC, le tribunal de commerce international des États-Unis avait estimé qu'avec ses surtaxes, le président américain avait outrepassé ses pouvoirs en s'arrogeant des prérogatives réservées au Congrès. Le tribunal avait donc bloqué les droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine, mais aussi les droits de douane réciproques. Annoncés en grande pompe par Donald Trump lors de la journée de la libération en avril, ces derniers avaient cependant été repoussés à début juillet sous la pression des marchés financiers. Hier, la décision de l'ITC avait été saluée par la Chine et le Canada, mais elle avait aussi déclenché la colère de la Maison-Blanche qui avait immédiatement déposé un recours. Tout à l'heure, une cour d'appel a accédé à la demande du gouvernement américain et décidé de lui accorder le bénéfice du doute en maintenant temporairement ses surtaxes le temps de se prononcer sur le fond. Un nouvel épisode dans cette saga des droits de douane à laquelle les marchés financiers semblent désormais être habitués, puisque la bourse de New York s'est affranchie de ses rebondissements pour terminer à la hausse tout à l'heure.
Les précisions de Théo Conscience. Donald Trump cible des invectives du Kremlin alors que l'Ukraine vient d'accepter sous condition un deuxième cycle de négociations directes avec la Russie. Le président américain serait en surcharge émotionnelle. Réaction de Moscou après qu'il ait traité Vladimir Poutine de fou, accusant son homologue russe de jouer avec le feu. Donald Trump qui s'impatiente, lui qui avait promis de régler le conflit en 24 heures. Mais pour le spécialiste Cyril Brett, invité d'RFI Midi, cette passe d'armes entre les deux dirigeants sera vite oubliée dès la première poignée de main.
La Russie, par ce type de réponse qui paraît ironique, montre à Donald Trump qu'elle fait bien la part entre la rodomontade destinée à l'impressionner et le fond du dossier. Les deux leaders vont finir par se rencontrer et quand ils se rencontreront, eh bien, toutes les rumeurs ou toutes les expressions indirectes s'effaceront devant ce qu'ils concluront. N'oublions pas, dans l'art du deal de Donald Trump, il y a évidemment le bruit et la fureur, la confusion instillée volontairement et la Russie a voulu bien signifier qu'il n'était pas dupe de cette expression du président américain sur X.
Et quant aux éventuelles négociations entre Russie et Ukraine, elles ne tiennent qu'à un fil d'après l'ONU qui s'appuie sur la récente intensification de l'offensive russe. Le week-end dernier, l'armée russe a lancé plus de 350 drones sur l'Ukraine, un record depuis le début de la guerre. Celle-ci atteindra bientôt les 20 mois et alors qu'un arrêt des combats semblait se dessiner à Gaza après le feu vert d'Israël à une proposition de cesser le feu, proposition rejetée par le Hamas pour qui elle ne répond à aucune des deux demande du peuple palestinien, à savoir l'arrêt de la guerre et de la famine dans l'enclave. Ce jeudi, 54 personnes sont mortes dans les bombardements israéliens, tandis que le dernier hôpital du nord de l'enclave, encore en fonctionnement, fait savoir que l'armée israélienne a procédé à l'évacuation forcée des patients et du personnel médical de l'hôpital Al-Aouda. Et puis l'actualité de la région marquée par une attaque revendiquée par le groupe État islamique en Syrie, qui dit avoir mené sa première attaque contre les forces du nouveau régime. Une ONG rapporte la mort d'un soldat. Trois autres ont été blessés dans l'explosion d'une mine.
RFI.
Le Canada est en proie aux flammes. Le pays enregistre actuellement plus d'une centaine de feux de forêt, notamment dans la province centrale du Manitoba, particulièrement touchée. 17 000 habitants sont en cours d'évacuation. Alors face à l'ampleur du danger, le premier ministre de la province a décrété l'état d'urgence. Au cours du mois dernier, près de 200 000 hectares de forêt sont partis en fumée dans le Manitoba. Igor Strauss, c'est trois fois plus que la moyenne annuelle.
Des flammes qui s'élèvent à plus de 30 mètres de haut et qui empêchent les pompiers d'approcher, des départs de feu sur l'ensemble du territoire qui demandent une parfaite coordination et des conditions météorologiques compliquées avec des vents changeants qui attisent les flammes et les dirigent vers les zones habitées. Face à la gravité de la situation, les autorités ont fait appel à l'aviation militaire pour aider les habitants des zones les plus reculées à évacuer, mais les capacités d'accueil restent limitées. C'est donc sur la solidarité des citoyens que comptent les autorités pour héberger les personnes évacuées. Jamais la province n'avait été confrontée à de tels incendies. Le manque d'humidité, de précipitations et la hausse des températures sont à l'origine de l'intensité et du nombre d'incendies. Mais le pire reste peut-être à venir. Selon les prévisions des autorités canadiennes, la saison des feux de forêt pourrait être au-dessus de la normale en juin et juillet et bien au-dessus de la moyenne en août en raison de la sécheresse provoquée par le changement climatique.
Et à l'instant, une deuxième province canadienne, la Saskatchewan, déclare l'état d'urgence face aux feux de forêt. Pas de repos pour la violence des cartels au Mexique. 5 musiciens d'un groupe de musique retrouvés morts par les enquêteurs. Ça s'est passé dans le Tamaulipas, un état connu pour l'hyperviolence des cartels. Les artistes avaient été engagés pour jouer dans un bar, mais arrivés sur place, aucun établissement, juste un terrain vague selon les familles des victimes. Au Mexique, les musiciens sont régulièrement pris pour cible, pressés par les narcotrafiquants de composer des chansons à la gloire de leur chef. 9 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. C'est une institution clé pour lutter contre la pauvreté en Afrique. En investissant dans les entreprises, la Banque africaine de développement a élu ce jeudi un nouveau président. Il s'appelle Sidi Ould Tah. Cet ancien ministre de l'économie mauritanien prend donc la tête d'un organisme qui regroupe 81 pays, dont 54 en Afrique. Il succède au Nigérian Akin Wumi Adesina. RFI 2h07 à Mamoudzou, Mayotte. Et l'accès aux soins sur l'archipel toujours aussi entravé. Le territoire entier est un désert médical et l'accès aux soins est encore plus compliqué pour les personnes en situation irrégulière. Alors pour faire face au manque d'offres médicales, le bureau local de Médecins du Monde organise des permanences médico-sociales, notamment à Longoni, un village très éloigné de toute structure de soins. Lisa Morisseau a suivi pour RFI une équipe de Médecins du Monde venue faire des consultations au reportage.
C'est combien pour le prix Viscan ? Une boîte, 11 euros. Ce médicament, Salama a besoin de le prendre. Cette habitante de Longoni a une maladie chronique. Elle a subi une chirurgie au niveau du cœur. Désormais, elle doit suivre scrupuleusement son traitement. Avec le blocage de la préfecture, la femme de 51 ans n'a pas pu renouveler son titre de séjour et se retrouve en situation irrégulière. À Mayotte, cela signifie qu'elle perd ses droits pour bénéficier de la sécurité sociale. Mohamed Moya accompagne les patients dans leur accès aux droits.
Exceptionnellement, à Mayotte, c'est l'unique département en France qui n'a pas le maintien de droits. Donc, à Mayotte, une fois que vos papiers ne sont pas valables, là, les droits sont fermés.
Pour l'instant, Salama paye avec ses propres économies ses médicaments, mais elle n'en a pas les moyens sur le long terme.
C'est très compliqué si je n'ai pas accès à mes médicaments au quotidien. Je vais me sentir mal et mon état de santé va se détériorer. Le médecin m'a dit que prendre mon traitement est même plus important que manger. Je ne travaille pas, je n'ai pas de mari, donc le fait de ne pas avoir accès à ces soins, c'est un gros problème financier.
Finalement, l'association a attribué une aide financière à Salama pour lui permettre d'acheter son traitement pour une durée d'un mois. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Et à Mayotte comme en métropole, la cigarette s'est terminée, en tout cas près des écoles, dans les parcs et à la plage. Annonce du gouvernement français qui prendra effet dès ce 1er juillet et en cas de non-respect, une contravention de 135 euros pourra être dressée. Le FC Metz retrouve la Ligue 1 un an après l'avoir quitté. Les Messins ont mis un coup sur la tête au stade de Reims lors du barrage retour. Victoire 3-1. Au bout des prolongations, les Rémois descendent en Ligue 2. Fin de parcours à Roland-Garros. Pour pour Gaël Monfils. Le français s'est incliné au deuxième tour face au Britannique et cinquième mondial Jack Draper. Ça passe en revanche pour Novak Djokovic après son succès en 3-7 sur Corentin Moutet. Qualification facile également pour Yannick Sinner, le numéro 1 mondial qui a sorti Richard Gasquet, le Biterrois à qui le public a rendu un vibrant hommage. Il jouait en effet le dernier match de sa carrière après plus de 1000 rencontres et 22 participations au tournoi de la capitale. RFI, il est 1h10 à Paris.